appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mouimaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, merci de suivre votre magazine Parole aux auditeurs sur les antennes de la fréquence de la paix, Radio Okapi. Les services de contrôle à la frontière du Vietnam et Singapour ont saisi 40 tonnes de pointes d'ivoire et écailles de pangolins sorties de la République démocratique du Congo il y a près d'un mois. Et dans cette affaire, certains cadres et agents des services de contrôle en RDC ont été interpellés et détenus en prison. Plusieurs observateurs estiment que cette affaire relance les débats sur l'efficacité de mécanismes de contrôle de l'exportation des espèces protégées en RDC. Comment réagissez-vous? 081-890-49-69-49 pour intervenir en direct pour votre magazine. C'est pour poursuivre aussi les débats sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Gilles Lungembo. Pierrot et la Mégie, j'ai le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin. C'est Boujango, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Okapi Sport vous propose en rediffusion sa partie interactive tout le lundi à 14h15, heure de Kinshasa. La passion du sport, c'est sur Radio Okapi.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Dans la loi portant principe de conservation de la nature en RDC, l'article 14, l'alinéa 6 dit ceci, il est interdit de détenir, de céder, de vendre, d'acheter ou de transporter tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées. Alors même l'exposition de ces espèces dans les lieux publics, c'est le cas des pointes d'ivoire, des écailles de pangolins, des oiseaux, autant de produits provenant de la faune et flore qui sont interdits d'être mis saisis et disons exportés. Voilà, et certaines personnes ont été arrêtées en RDC par rapport à cela. Alors comment arriver à renforcer le mécanisme, n'est-ce pas, en termes de contrôle des circulations de ces espèces protégées ainsi que de produits des dérivés. Voilà, nous en parlons dans Parole aux auditeurs, mais beaucoup de commentaires sont déposés également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Olivier, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Paroles aux auditeurs. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, là c'est un problème très très sérieux et ce problème soulève la question de l'État à plusieurs niveaux. Si vous regardez la carte, vous allez voir Singapour, le Vietnam, c'est vraiment à milliers de kilomètres. Et je peux vous assurer que nous n'avons pas de direct. Nous n'avons pas de vol direct entre Kinshasa et Singapour, Kinshasa et le Vietnam. Alors, ça signifie que ces produits de Njili, et généralement ça transite, ce n'est pas Njili, c'est de l'Est. Et ça transite d'Afrique de l'Est. Vous avez Rwanda, vous avez le Kenya. Et le premier grand problème, ça se situe au niveau des aéroports, des frontières. Et là, il y a évidemment la corruption, on ne le dira jamais assez. C'est la corruption qui est à la base de tous ces problèmes-là. Donc, ça signifie que nous avons des agents corrompus et très corruptibles. Et ce trafic implique généralement des grosses.
Alors, on a des petits soucis, hein. Olivier, pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu parce que là, vous sortez entrecoupé. Il est difficile de suivre clairement votre intervention. Vous avez évoqué les cas de corruption au niveau des agents, bien sûr, qui s'occupent des contrôles, des surveillances par rapport à l'exportation. Mais malheureusement, l'intervention s'est détériorée un peu. On vous écoute encore tout en vous déplaçant, bien sûr.
Ok, j'ai passé un peu. Je disais que ça implique généralement les grosses légumes. Donc, ce ne sont pas citoyens qui sont dans ces circuits-là et ces légumes travaillent généralement avec des sujets étrangers. Alors, ça, il y a d'abord la responsabilité.
Alors là c'est difficile carrément, Olivier, mais vous avez dit ces genres de trafic pour l'exportation des espèces rares ou des produits interdits, c'est souvent ça implique de grosses légumes. En d'autres termes, vous voulez parler des autorités qui travaillent à travers un réseau avec des expatriés, voilà. Mais si on vous a très bien suivi, c'est la question de la corruption. Si on combat la corruption, on peut facilement protéger ces espèces. Merci beaucoup. Djégué, vous êtes en Bandaka. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup de la parole que vous m'accordez. Moi, je pense que le problème, c'est d'abord le problème de la vulgarisation de l'article 14 de la loi pour la protection de l'environnement qui pose problème. Lorsqu'on adopte les lois ou lorsqu'on élabore les lois, il faut vulgariser toutes ces lois. Ce n'est pas question que la loi est mise sur pied et que la loi n'est pas vulgarisée. Beaucoup de populations ne savent pas si ça vient de l'appliquer. C'est un problème. Le deuxième problème, ce serait au niveau des services assimilés à l'État qui sont chargés pour faire ce travail, pour faire ce travail. Au niveau des aéroports, des ports où on laisse passer tous les produits interdits ailleurs, comme l'essence de la protection de l'environnement. Et ça, c'est d'une part. De l'autre part, monsieur le journaliste, permettez-moi, c'est un problème où on ne doit pas nous sacrifier pour l'intérêt des étrangers. Le bien de la RDC ne bénéficie pas à des populations congolaises. Et il faut que nous utilisions nos biens pour nous-mêmes, pour nous en servir. Nous protégeons, bien sûr, ce sont des espèces rares disparues au monde. Si on les protège, bien sûr, pourquoi ça sert à quoi à la population congolaise? Moi, je pense. Je n'appelle vraiment pas les Congolais d'en utiliser, d'en exploiter pour qu'ils soient disparus au monde, mais c'est une façon également de pousser les pouvoirs publics à avoir un air regardant sur la vie de la population. On vient d'inviter un budget qui ne parvient même pas à résoudre tous les problèmes. Même si on disait que voilà, un agent public des derniers ressorts serait payé à $250, cela ne nécessite pas. Hein? Lorsqu'on voit l'inflation, on sait, lorsqu'on parle de l'inflation en République démocratique du Congo, tous les produits sont à la hausse. Quelqu'un qui a des enfants à l'université, son salaire d'un mois ne parvient pas à payer les frais académiques pour son enfant. Un fonctionnaire public qui va se soigner à l'hôpital de l'État, il a pour moins de $500, mais on lui tend la facture qui est plus de $1000. Vous voyez, ce sont des problèmes qui poussent les populations congolaises à ne pas bien protéger l'environnement, à consommer tout ce qui revient comme héritage naturel, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Djégué. Vous avez soulevé trois points. Il faut d'abord vulgariser la loi sur la conservation de la nature, surtout l'article 14, que la population connaisse. Quand on parle des espèces rares pour se protéger, les gens doivent connaître, n'est-ce pas? D'abord, c'est le premier problème, c'est la loi. Il faut que la loi soit suffisamment vulgarisée. Mais il faut aussi l'encadrement de différents services qui travaillent dans le port, les aéroports, les frontières, ces services qui doivent contrôler pour savoir qu'il y a des produits qui ne peuvent pas sortir. Et puis, il y a aussi cette question de la protection. La population doit savoir même pourquoi nous protégeons l'environnement, pourquoi on doit protéger les éléphants, pourquoi on doit protéger les pangolins, pourquoi on protège l'okapi, pourquoi. Parce que les gens aussi ne vont pas comprendre, mais pourquoi nous avons ces produits? Nous sommes obligés de les protéger sans pouvoir les utiliser. C'est tout tourne autour de ce travail transversal qui doit être mené. Mais sans oublier aussi l'amélioration des conditions de travail de ceux qui s'occupent de contrôle. Merci beaucoup, Pichu. Vous êtes à Kwilungongo. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux amis qui nous ont précédés.
Voilà, si vous avez suivi bien, tout est parti de l'arrestation de quelques cadres de services de contrôle qui ont été arrêtés, détenus en prison parce qu'on s'est rendu compte que des tonnes de pointes d'ivoire et cahiers de pangolins se sont retrouvés à Singapour, au Vietnam. Tout est parti de la RDC. Mais alors, comment arriver vraiment à renforcer, à mettre en place de mécanismes plus efficaces qui puissent assurer la protection de ces produits qui sont interdits, bien sûr, d'exportation?
Au premier vue, monsieur le journaliste, moi, je crois qu'il y a lieu d'insister. Parce que la loi, elle existe dans ces pays. Il y a des gens qui ont travaillé sur des lois dans ces pays. Mais les problèmes se situent au niveau de cette faiblesse qui est la corruption. qui est devenu monnaie courante ici dans notre pays. Il est vraiment sérieux ce problème parce que c'est pratiquement dans tous les secteurs. Et j'insiste là-dessus, si le gouvernement ne trouve pas les mécanismes d'appui à cette grande faiblesse, moi je crois que le manque à gagner va continuer parce que c'est une importante cargaison qui est arrêtée de l'autre côté. Et on jette des gens en prison, mais il y a des têtes, des grosses têtes, des hommes politiques puissants qui sont intouchables jusqu'en ce moment et qui continuent à circuler normalement parce qu'ils sont placés au haut niveau de notre politique au Congo. Nous osons croire que la loi telle qu'elle existe dans ce pays, si on met du sérieux, moi je crois que toute cette histoire-là. Comment comprendre qu'il y a Ebola à l'Équateur, mais voici à Maluku, vous verrez des chimpanzés, des singes qui proviennent de l'Équateur, qui entrent à Kinshasa au lieu de consommation. Pendant qu'il y a des agents de quarantaine, il y a des gens de la Griffelle qui sont là-bas à Maluku, qui sont censés, n'est-ce pas, stopper cette exportation, ou soit ce marché de bétail ou soit de simplement de gibier au niveau de l'Équateur. Mais on continue à observer des histoires provenant de l'Équateur, venant ici à Kinshasa pour nourrir la population pendant que cette période doit être observée parce qu'il y a une maladie contagieuse qu'on est en train de combattre pour que ça finisse. Vous voyez, donc nous voulons, n'est-ce pas, mettre l'accent plus sur les suivis de ces lois, parce que les lois, elles existent, ça je vous rassure que la loi existe au pays, mais c'est le suivi qui n'en a pas. Et les gens qui devaient participer, c'est la police. Vous comprenez que la police aujourd'hui, du fait qu'ils n'ont pas un bon salaire, et quand on vous présente des monnaies, vous avez appris à l'aéroport d'Ndili, dans le sous-tabagage, on a arrêté un Indien en partant vers le Dubaï, avec plus de 1 million de dollars en monnaie liquide, pendant qu'il y a la loi qui dit aucune somme ne peut être exportée du pays sans pour autant que ça puisse passer dans une banque. Mais là, vous verrez, il y a un Indien, un expatrié qui vient facilement comme ça et les Congolais les facilitent la tâche, l'emmenant de l'histoire au niveau des sous-tabagas parce que c'était déjà parti. Mais c'était la vigilance de la DGM. Ça aurait déjà été en Dubaï. Donc, vous comprenez que le pays a un problème sérieux. Je crois
voilà.
Que
mais ce que vous avez dit, voilà, exactement. Pichou, vous avez évoqué hein, c'est cette affaire d'1 million de dollars. La loi dit qu'on ne peut pas transporter sur soi plus de 10 000 dollars en liquide. Hein. Le reste doit passer par les circuits bancaires. Mais rappelons quand même, quelque part, vous l'avez dit, qu'il y a eu des faiblesses. Mais quelque part, il y a eu aussi des forces parce que c'est le même service de l'État congolais qui ont pu mettre la main sur cet argent. Et par rapport à cette question des produits, des espèces protégées, vous insistez sur la vulgarisation de la loi, parce que la loi existe, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui doit sortir, quelles sont les procédures pour pouvoir exporter les produits, tout cela est prévu par la loi. Mais au-delà de la loi, il faut aussi lutter contre la corruption, parce que vous estimez que c'est la plus grande faiblesse aujourd'hui. Merci beaucoup, Pichou. Nous restons ici à Kinshasa, avec vous, Félicien Kindoula, merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et vous avez été parmi les personnes interpellées dans cette affaire pour l'exportation de ces produits interdits. On sait bien que dans l'interpellation, la détention, il y a la justice qui doit faire son travail. Mais sur le plan pratique, qu'a-t-on reproché au service de l'État dans cette affaire? Est-ce que les services ont pu respecter ce que la loi dit pour dans le cas de d'exportation de produits qui sont interdits?
Bien, merci. Moi, je vais vous dire, je pense qu'on a passé des temps pour détailler. Je vais vous dire que les problèmes que nous avons dans ce pays, d'abord, c'est les problèmes de la médiocrité au sommet de toutes les institutions. Et nous avons besoin plutôt de combattre la médiocrité, de combattre les antivaleurs. Et je ne pense pas que le président de la République, malgré sa bonne volonté, il peut seul vraiment résoudre ces problèmes. Nous avons un grand nombre de médiocres qui occupent des grands postes, des postes importants qui devraient servir à changer les choses dans ce pays. mais ils sont toujours là depuis des années.
Non, mais Félicien, si on doit revenir dans le fait, on sait qu'il y a ces problèmes qui se posent dans le pays, mais nous parlons de cas concrets. Vous avez été interpellé dans cette affaire. Les mécanismes existent. Maintenant, à ces moments, les auditeurs voudraient quand même savoir si les services de l'État avaient respecté ce que la loi dit par rapport à l'exportation, comment ces produits sont partis de Kinshasa pour le retrouver là, alors que il y a tous les mécanismes mis en place par l'État par rapport à cette question.
Oui, mais je voudrais juste m'arriver à cela. Ne m'interrompez pas parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vous dis que pour faire sortir d'abord des tonnes, 20 tonnes de Côte d'Ivoire, 20 tonnes de cailles de pangolins, il faut au moins estimer combien de pangolins, combien d'éléphants. Et ça se fait pas la nuit, ça se fait au grand jour. Et c'est pas un paysan qui va aller prendre des tonnes et des tonnes comme ça et puis il va les exporter calmement et sans être inquiété. Et en plus, là où on embarque ces histoires-là, là où on les met dans les conteneurs, mais il y a tous les services de l'État. Vous avez la DGDA, vous avez l'OCC, vous avez l'ANER, vous avez même la police des frontières, vous avez même les transitaires lui-même. Mais tous ces agents-là, ils sont là et ils remplissent les conteneurs, ce qu'on appelle l'empotage. Tant qu'ils n'ont pas encore terminé, personne ne peut aller chez lui. Tant qu'ils n'ont pas fermé, mis les plombs, personne ne peut se déplacer. Mais comment est-ce que ces histoires peuvent se passer? Comment est-ce qu'un opérateur économique peut demander l'exportation de bois et on retrouve sur trois conteneurs, un conteneur plein de pointes d'ivoire et de cailles de pangolin et deux conteneurs seulement avec du bois? Mais c'est ça au grand jour. Et les agents qui sont là, ils ont vu ça parce qu'ils ont fermé, ils ont mis des plombs. Et c'est deux conteneurs comme ça de 20 tonnes de cailles de pangolin et de pointes d'ivoire. Et le reste, c'est du bois. Et on vient arrêter les directeurs qui sont dans leur bureau et les agents qui sont sur le terrain, qui ont fait ce travail, on ne les inquiète pas, ils sont dans la nature. Et voilà comment nous fonctionnons avec les médiocres dans ce pays. Et parce que il n'y a pas un état de droit, parce qu'il n'y a pas eu la justice. Alors, on arrête celui qu'on vient arrêter.
Voilà, mais Félicien, si on suit bien vos explications, cela veut dire que c'est tout un réseau de braconnage jusqu'à l'exportation. Il doit y avoir de réseaux. Mais maintenant, il se pose un problème, mais chacun a une responsabilité. Mais vous, dans tous ces services qui sont concernés, qui signe en principe la sortie d'exportation de produits pour qu'on sache que non, voilà, où se trouve en fait la responsabilité aujourd'hui dans cette affaire, parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, c'est tout un réseau, mais il faut qu'on sache chacun à sa responsabilité qui a signé quel papier pour qu'autant de choses se retrouvent frauduleusement à l'extérieur du pays.
Oui, mais le problème, c'est que l'enquête lui-même a été mal diligentée, elle a été mal exécutée, parce qu'au niveau de l'Interpol, on a trouvé des gens qui n'avaient pas besoin de l'enquête, de connaître la vérité, mais qui avaient besoin de chercher, je ne sais pas, autre chose. Et ils ont bâclé tout, et c'est pourquoi on ne sait pas dire exactement qui devait répondre de ces problèmes. Et c'est ça la difficulté qu'on a dans ce pays. Et si on avait vraiment mené une bonne enquête, une enquête sérieuse et crédible, s'agissant bien sûr de l'intérêt de la nation, s'agissant de l'honneur et de la dignité de toute une nation, on devrait savoir qui est l'exportateur. Parce que l'exportateur, ça ne peut pas être quelqu'un d'anonyme qui exporte. Il y a un exportateur, il y a un destinataire à qui il envoie la marchandise. Il a tous les documents, il a la licence de la banque, il a toutes les autorisations et de tous les ministères concernés par l'exportation de bois. Mais s'il a utilisé les conteneurs destinés à exporter le bois, il a mis des produits prohibés. Mais on sait déjà qui voulait exporter ces bois et comment dans des conteneurs on a pu trouver d'autres choses que les bois. Mais on ne peut pas aller arrêter les gens en désordre comme ça pour le plaisir, pour faire voir qu'on travaille, alors qu'en réalité on ne travaille pas, on cherche autre chose.
Merci. Voilà, merci beaucoup Félicien Kindoula. Vous avez donné ces explications. On comprend que les enquêtes ont été bâclées. Cela veut dire que les gens n'ont pas pu suivre la logique, mais il y a quand même ce que la loi prévoit. Mais nous estimons que la justice pourra faire le travail pour faire vraiment la lumière en profondeur et savoir à qui revient la responsabilité de sortie de tel ou tel produit. Mais le problème va toujours demeurer parce que c'est comme les auditeurs le disent, c'est la question de savoir d'une manière efficace comment on peut arriver à protéger ce qui est interdit, comment on peut arriver à contrôler pour savoir, et ça, savoir où qu'est-ce qui doit être fait, parce qu'il va de l'honneur, vous l'avez dit, de tout un pays, l'honneur de tout le monde. Alors, tout à l'heure, on va donner la parole à plusieurs autres personnes, y compris Monsieur Hassan Yungula, qui va essayer de d'apporter aussi la lumière en ce qui concerne le contrôle, les mécanismes, comment on arrive à quelles doivent être les procédures à respecter dans ces domaines des espèces protégées. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Mais vous pouvez aussi commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Voilà, nous revenons ici dans ce studio. Monsieur Yungula Hassan, merci d'être avec nous. Vous avez toujours contribué à donner plus d'éclairage dans nos émissions quand il s'agit des différentes matières comme celle-ci. On sait qu'il y a eu des faits, il y a eu une exportation illicite, il y a eu des arrestations, mais nous revenons aujourd'hui parce que le débat, c'est comment l'État congolais peut mettre en place des mécanismes efficaces ou bien le mécanisme qui sont mis en place, comment peuvent être-ils renforcés pour éviter que des cas comme ça puissent arriver prochainement. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Allô?
Oui, monsieur Yungula, bonjour.
Oui, bonjour. Je vous remercie, monsieur. Alors, je pense que les problèmes, on doit les poser d'abord autrement. La République démocratique du Congo a comme richesse du cuivre, des parcs des animaux, la flore, la faune, etc. Admettons que nous ayons 75 millions de tonnes de cuivre de réserve, et qu'on en exploite 1 million chaque année. Il nous faudrait 75 ans pour terminer toutes nos réserves de cuivre. Si 1 million de tonnes de cuivre sont vendues à 5 000 dollars la tonne, ça fait 5 milliards. Si vous multipliez 5 milliards fois 75, ça fait à peu près 375 milliards de dollars que nous pouvons avoir sur 75 ans. Maintenant, faisons l'inverse. Nous avons 3 millions de visiteurs, des touristes qui viennent en République démocratique du Congo. Ils dépensent sur notre territoire 3 000 dollars. Ça fait 9 milliards chaque année. Vous multipliez par 75 ans, vous pouvez voir le chiffre. C'est plus de 700 milliards de dollars. Et les animaux là, les espèces, les plantes, tous les parcs resteront toujours même après 75 ans. Donc, il s'agit d'une question vitale pour notre pays. Ce n'est pas un problème de procédure parce que notre pays, quand vous prenez la loi 14-003 qui traite de la conservation de la nature, cette loi, puisque nous sommes partie prenante de la Convention internationale sur la protection des espèces menacées, cette loi reprend intégralement les textes de la Convention internationale. Mais le problème que nous devons comprendre, c'est qu'il s'agit d'un intérêt vital pour notre pays et même pour la région. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas dire que c'est la DGDA qui doit faire le travail. La DGDA, par exemple, a pour rôle d'appliquer la législation connexe en matière d'exportation des espèces à protéger. ou de sous-protection. Ça, c'est le rôle de la DGDF. Mais au-delà de tout ça, ce n'est pas, ce ne sont, comme quelqu'un l'a dit, ce ne sont pas des individus qui font ça. Ne parlons pas de nos compatriotes. Le marché international, ce commerce illicite, c'est plus de 5 milliards d'euros chaque année. 5 milliards d'euros, ça signifie qu'il s'agit d'un problème de criminalité organisée. Ça, c'est aussi dans les compétences de la DGDA. Mais non, la DGDA fait partie des services. Ça signifie qu'il doit y avoir une force coordonnée du pays, au niveau de la police, des services de renseignement, au niveau de la DGDA. Le rôle de l'OCC, bon, on en parle trop, mais le rôle de l'OCC dans cette histoire est moins, disons. Alors, disons que les grands services de l'ANES, la DGM, la police et la DGDA. Puisqu'il s'agit d'une question d'intérêt national, parce que le tourisme peut nous apporter plus que le cuivre, plus que le coltan, et c'est pour des générations en génération, c'est pour des longues années. Donc, nous devons revoir notre stratégie. Sur le plan formel, l'exportation, on connaît la procédure. Comme la loi le dit, il est interdit de détenir, on doit avoir un permis. Mais est-ce que cette exportation, telle que vous parlez de l'exportation, est-ce qu'il s'agit d'une exportation? Non, il s'agit d'une exportation frauduleuse.
Exact.
On a masqué, on a dit qu'on exportait du bois. Mais on découvre que ce n'était pas du bois qui se trouvait dans les conteneurs, mais plutôt des produits illicites. Donc, le problème, c'est que nous devons comprendre que nous sommes attaqués dans plusieurs circuits. Et que quand vous dites que vous allez bloquer Kinshasa, mais s'il vous plaît, mes amis, la guerre à l'Est, vous croyez que c'est pour faire quoi? Vous croyez que c'est pour faire quoi? Donc, c'est tout à fait normal, comme le pays a compris. Le pays fait quoi? D'abord, c'est de mettre la sécurité à l'Est du pays. Où se trouve le plus grand parc? Qui peuvent être intégrés au parc du Rwanda, au parc de la Tanzanie, au parc de l'Ouganda, au parc du Burundi. Au parc de l'Ouganda, c'est la RDC, c'est vers l'Est. Le prolongement depuis la province, l'Est-Province orientale jusqu'au Katanga, en passant par le Kivu, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu. On ne parle pas de la province de l'Équateur. Donc, nous avons des richesses énormes. C'est-à-dire que, d'abord, mettre de l'ordre, comme on l'a dit, d'abord, recréer un état de droit conformément à ce qu'on appelait l'accord cadre d'Addis Abeba, un État puissant, capable de sauvegarder les intérêts du pays, parce que les intérêts du pays ne se trouvent pas seulement dans les mines, mais surtout dans le tourisme. C'est le tourisme qui va faire la fusion de ces trois, de ces cinq États, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la RDC, même la Zambie. Nous avons des intérêts communs.
Voilà. Lorsque vous recevez 4 millions de touristes,
je donne un exemple, s'il vous plaît.
Oui.
Si vous recevez 3 millions de touristes par an, vous avez besoin de 250 000 chambres. Vous avez une vague de 12 vagues par an. Et que ces hôtels-là doivent être dispersés à travers tout le pays. C'est ça l'intégration régionale. Donc notre pays étant, ayant le plus grand nombre de parcs, ayant les plus grandes réserves de faune et flore, nous avons tout intérêt à reconstruire la paix, à consolider la paix, à vivre en amitié, en fraternité avec les pays voisins, de sorte que nous puissions intégrer nos forces et faire en sorte que nous ne dépendions plus
voilà.
de substances latérales comme le cuivre, le cobalt, etc.
Oui.
Ils sont épuisables, s'il vous plaît.
Mais vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué le marché international illicite, bien sûr, de ces produits qui s'élèvent à près des 5 milliards d'euros. C'est énorme, cela veut dire qu'il y a de grandes complicités, si on doit utiliser. Mais vous revenez sur le fait que la RDC doit revoir la stratégie. Est-ce que cette stratégie, c'est en termes de texte ou c'est en termes d'engagement politique, d'engagement stratégique et volontaire?
Non. C'est l'engagement politique et le gala. Et déjà là, pourquoi? Parce que nous avons des textes légaux qui régissent. Nous sommes partie prenante de la Convention internationale qui teste. Nous sommes partie comprenante. Nous travaillons dans le cadre de la région, dans le cadre régional, donc au niveau africain. Mais le problème qui est là, c'est de renforcer l'état de droit. Pour le moment, nous sommes menacés de plusieurs voies. Donc, il est impérieux que la République démocratique du Congo comprenne que
il faut restaurer l'état de droit, la primauté de la loi sur tout le monde. Parce que les menaces qui pèsent sur notre pays sont énormes. Il faut que nous nous organisions, qu'on ne parle pas des politiques du jour, du matin au soir, mais qu'on parle de la vision des intérêts vitaux du pays. Nous devons, ça veut dire que le pays, on ne peut pas en donner de tous les côtés. Vous savez, je disais un jour à quelqu'un, je ne peux pas le dire. Je dis, est-ce que vous savez que si nous exportons 2000 mètres cubes d'eau par mot par seconde, au prix de 1 dollar, nous faisons 31 milliards. Ça signifie aujourd'hui plus de 6 fois la valeur du cuivre. Donc, notre pays, on doit être conscient de tout ça. Et il faut intégrer les énergies. Et moi, pour moi, je le répète encore une fois, la dernière fois je l'ai dit, la colonne vertébrale de la RDC, c'est l'armée, les services de renseignement et la police.
Merci.
Lorsqu'on aura renforcé l'armée, les services de renseignement, on donne des drones à l'armée pour surveiller les frontières, pour pouvoir détecter là où il y a des espèces qui sont dans les conteneurs, etc. Lorsqu'on aura donné ces moyens à l'armée, et nous, vous savez très bien que l'armée est la seule structure qui est déployée sur l'ensemble du territoire national, la DGDA n'a pas autant d'argent, la police a aussi été déployée, les services de renseignement aussi en appui, alors ce sont ces services-là qui vont aider la DGDA et l'OCC. Voilà
merci.
Mon point de vue.
Voilà. Merci.
Notre armée, les services de renseignement et la police.
Merci beaucoup, merci.
C'est la colonne vertébrale de la survie de la RDC.
Merci beaucoup, monsieur Yungula San, pour ces précisions. Lorsqu'on aura renforcé la police, l'armée, les services de renseignement, c'est la colonne vertébrale, vous l'avez dit, hein, c'est à ces niveaux que l'OCC, la DGDA pourront être soutenus pour faire leur travail. Justin, vous êtes à Fongouroumé, merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, bien-aimé Pierrot et Lamengi, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
En tout cas, oui, c'est très pertinent de parler sur l'étonnage des écailles de pagolins et des pointes des éléphants attrapés aux frontières, juste à la sortie. Donc les étapes même nécessaires étaient déjà passées. La conservation de la nature, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement aux policiers, ce n'est pas seulement aux les agents de l'ANR ou quoi que ce soit. C'est l'affaire de tout Congolais. Celui qui se retrouve sur le territoire du Congo doit sauvegarder sa nature. Mais c'est pitoyable de nous parler des 20 tonnes. Si on prend d'abord un pagolin, on enlève ses écailles. Ses écailles d'un pagolin ne peuvent pas faire même 3-6 pas. Et si on arrive à faire 20 tonnes, c'est dans combien d'années qu'on a réalisé ces 20 tonnes? Et pendant ces tonnes, c'est sur un endroit qu'on attrapait les pagolins, ou soit c'était sur une vaste étendue qu'on a là, et cet acheteur avait ouvert le comptoir pour acheter des écailles, et les écailles venaient par-ci, par-là. Et là où il achetait, il n'y avait pas les agents de la sécurité. Et dans combien d'années? On peut réguler même 12 ans qu'il avait débuté ses procédures. Et on ne peut pas enlever les pointes d'un éléphant et on laisse l'éléphant en vie. Il faut d'abord l'abattre et l'abattre. On enlève les pointes et la viande, c'est les gens qui vont s'en servir. Et tous ceux qui mangeaient même cette viande-là n'avaient pas songé à dénoncer pour qu'on arrête ce système-là. Et on est allé avoir 20 tonnes. J'ai remarqué, puisque moi j'ai grandi dans le territoire de Bukama et à côté du lac Upemba, il y a aussi le parc Upemba. Il y a les gardes-chasse commis là-bas pour sauvegarder pour les fermetures lacustres et ainsi pour sauvegarder ou sionner autour du lac du parc Upemba. Donc ces gens-là sont devenus de petits dieux. Chez eux, c'est là où il y a des comptoirs, des achats de viande. Et chez eux, c'est là où on doit acheter les histoires du parc. Parce que quand on dit on lance peut-être la fermeture, la quiste, ils prennent ses frères, on va les autoriser à entrer et à ramener ce qu'ils vont amener, on se divise par deux. Ça, c'est l'habitude de notre sécurité ici au Congo. Je ne vous cache pas, monsieur Gère, ce n'est pas l'affaire de seulement des policiers, de seulement de l'agent de l'ANR. Si on commence à faire vraiment l'investigation, il y aura toute une litanie de gens, des hommes politiques, des agents de l'ANR, des agents même des chefs coutumiers qui seront impliqués dans cette affaire. Et on n'a pas arrêté. C'est lui-même d'abord un acheteur. Vous pouvez connaître son identification, puisqu'on ne peut pas expédier quelque chose d'une manière anonymement. Et la destination, là, on doit réceptionner ça. On doit connaître celui qui a envoyé cela. Et cela révèle qu'il n'y a pas les mécanismes d'accompagnement pour la sécurité de notre pays et la conservation aussi de notre nature. On se glorifie seulement du budget qu'on alloue pour la conservation de la nature, mais les montants même n'arrivent pas à faire les nécessaires de ce qu'on a, pourquoi on a décaissé cet argent. Et l'État doit vraiment.
Mais et d'ailleurs, Justin, vous avez rejoint ce que Félicien Kindou l'a disait tout à l'heure, qu'avoir 20 tonnes d'écailles de pangolins, 20 pointes d'ivoire, ce qui veut dire que l'opération a mis beaucoup de temps. Est-ce que c'est dans une seule province? Cela veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont été impliqués. C'est qu'on a commencé à abattre ces éléphants. On doit avoir déjà vu des forêts, des villages où les éléphants ont été abattus pour qu'on puisse arracher ces points d'ivoire. C'est-à-dire que c'est une opération qui doit avoir mis tellement du temps jusqu'à avoir 20 tonnes d'écailles. Cela veut dire que beaucoup de pangolins ont été tués à travers le pays. Vous avez parlé des chefs coutumiers, vous avez parlé des chasseurs. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une grande implication. Félicien Kindou le disait, mais malheureusement, l'enquête n'a pas été, bon, selon lui, bien menée. On a pu arrêter quelques personnes qui étaient au bureau, alors que ceux qui étaient sur terrain n'ont pas été arrêtés. Ceux qui ont pu, c'est toute une chaîne, ceux qui ont identifié l'entreprise, ceux qui ont scellé. C'est-à-dire que vraiment, la justice doit avoir vraiment un grand travail qui doit être fait. Et vous estimez pour vous, Justin, que c'est une affaire de tous, c'est pas seulement une affaire d'une seule personne. Étienne, vous êtes à Guémena, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour à Joe Capri, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, oui.
Oui, merci monsieur le journaliste. Au prime abord, je voudrais féliciter quand même les services qui ont mis la main sur ces lots de marchandises illicites qu'on les qualifie. Toutefois, comme venait de dire mon prédécesseur Justin, pour que l'on puisse réussir dans la sécurisation des espèces protégées de la RDC, il est souhaitable que tout Congolais, tout patriote puisse s'impliquer. L'implication de tout le monde aiderait à ce qu'on puisse dénicher les coins et les recoins. Il n'y a que dans de pareilles situations, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Parfois, il y a même des autorités, tant au niveau local jusqu'à des très hauts niveaux. Donc, si tout le monde pouvait s'impliquer, ce serait une bonne chose. Mais aussi, il est très important qu'on puisse renforcer les différents services qui aident aux frontières. On a parlé des DGDA, DGM, tout ça. Il faudrait que tous ces services puissent être renforcés et au besoin réorganisés. Mais aussi insister à ce que chaque service puisse rester dans le strict respect de ses attributions. Je pense que ça aiderait à ce que le Congo, qui est en train de perdre beaucoup de ses ressources, qui est en train de perdre beaucoup de ses richesses, puisse quand même avoir des moyens pour son autosuffisance et pour le décollage de RDC. Vous venez de suivre notre invité qui a démontré avec des chiffres probants ou que l'ARG est en train de perdre inutilement et chaque année. Donc moi je pense que cette volonté de tout Congolais, de tout compatriote et aussi de tous ceux qui œuvrent dans les frontières aiderait à ce que vraiment le Congo puisse vraiment être un Congo promettant, être un Congo où tout Congolais pouvoir se retrouver.
Merci beaucoup Étienne. Il faut renforcer le travail des différents services de l'État, vous l'avez dit, mais si la population est sensibilisée, parce que avoir 20 tonnes de pointe d'ivoire, c'est qu'il y a eu une vaste opération de braconnage et que si chacun peut arriver à dénoncer à son niveau, notre intervenant de tout à l'heure disait que c'est une vaste opération et des opérations de grande envergure, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'implications à différents échelons. Alors s'il y a vraiment la volonté de tout un chacun, on peut arriver à combattre ce commerce illicite de ces produits et surtout, mais permettre aux services de l'État qui sont impliqués dans tout ce travail de travailler d'une manière qu'il faut avec des moyens conséquents. Merci beaucoup Bathier. Vous êtes ici à Kinshasa, Jonas Akananga. Bathier, bonjour.
Bonjour Radio Okapi. D'abord, je dois saluer tous nos compatriotes qui nous suivent dans le Congo profond. Mm-hmm. Par rapport à ce point, monsieur le journaliste, pour nous qui vivons dans le Congo profond, ça ne nous étonne pas parce que si je vais, par exemple, à l'Est, il y a tout un réseau. Il y a tout un réseau qui fonctionne à partir du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et au niveau du Tanzanie. Ce sont des réseaux bien tracés et à complicité avec nos autorités ici. Mais c'est le journaliste, par exemple, l'éléphant. Pour avoir l'ivoire d'éléphant, il faut l'abattre. C'est-à-dire que là, on utilise, ce sont des armes létales qu'on utilise. Ce sont des armes létales. Moi, je pense que cette situation, c'est la défaillance de l'État. L'État lui-même, d'abord, doit chercher à remettre l'ordre dans tous ces secteurs. Et aussi, ils ne savent même pas valoriser notre tourisme. Moi, je vous dis, par exemple, dans le parc de Garamba, tantôt ici, il y avait vraiment une chasse contre la rhinocéros blanche. C'est-à-dire qu'on cherchait les ivoires des rhinocéros blancs au niveau du parc de Garamba. Même si vous allez, par exemple, dans le parc de Virunga, chaque fois, il y a toujours des gardes-parcs qui se battent avec les groupes armés. Ces groupes armés-là travaillent avec des réseaux de pays étrangers qui sont là pour le travail pour chercher ce type des ivoires qui est défendu. Moi, je pense que l'État lui-même devait prendre les choses au sérieux. Et aussi, monsieur le journaliste, il y a problème des populations riveraines. Nous avons écouté dans les années passées que non, il y a l'Union européenne, la Banque mondiale a débloqué les montants pour la conservation de la nature. Et ils devaient aussi donner l'argent pour la population riveraine pour que cette population ne puisse plus abattre les animaux, les races qui est recherché, mais l'argent n'arrive pas à la population riveraine. Il y a des populations qui sont ils vivent de la cueillette, de la chasse. L'argent n'arrive pas. Et ils sont obligés d'entrer et aller battre ces bêtes. Moi, je pense que l'État devrait d'abord aussi suivre, voir ce problème, décourager aussi toutes ces pratiques et aussi sensibiliser la population. Moi, je dis qu'au niveau du Congo profond, la population locale ne sait même pas l'importance de tout ce que nous sommes en train de parler. Moi, je pense que la sensibilisation elle devait être plus prioritaire pour faire voir la population que le Congo de demain, le Congo d'aujourd'hui, c'est nous avec nos richesses. Moi, je pense que tout le monde doit participer pour protéger notre conservation de la nature.
Merci beaucoup, Bathier. Vous avez évoqué ce que les autres compatriotes ont parlé tout à l'heure de vastes réseaux de braconnage, parce que vous l'avez dit, on ne peut pas arriver à avoir autant de pointes d'ivoire s'il n'y a pas autant d'éléphants qui ont été abattus dans les parcs, et ça, c'est un problème. Mais tout doit passer par une grande campagne de sensibilisation des riverains, sensibilisation de la population. Il y a la dénonciation, mais il y a aussi le rôle que l'État doit jouer hein, en mettant en place de mécanismes, n'est-ce pas, de renforcement du travail de services publics. Mais à côté de ce travail de services publics, mais il y a aussi ce travail de la volonté, parce qu'on a déjà la loi. Monsieur Ingou le disait tout à l'heure, dès qu'on a la loi, cela veut dire qu'on a déjà la volonté, mais il faut arriver maintenant à faire appliquer la loi. Et quand il y a des enquêtes doivent être menées sérieusement et des personnes qui sont impliquées, mais pas au niveau l'échelon le plus bas. Mais si on estime qu'il y a des grandes implications supérieures au niveau des services publics, que chacun puisse tirer les conséquences de son acte, et c'est ça vraiment le souci pour qu'on arrive à protéger et tout cela. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct, mais vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Jonas et Jérémy, nous allons vous accorder la parole tout juste après.
Parité, autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Au
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Jonas, merci d'avoir rejoint Parole aux auditeurs. Vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, merci également d'avoir accordé la parole dans cette entre citoyens congolais.
On vous écoute, Jonas.
Merci. Donc, par rapport à la thématique du jour, j'ai juste les interventions des uns des autres. À mon sens, je suis en train de me dire que quelque chose qui cloche encore dans les têtes des Congolais. Beaucoup de gens soutiennent qu'il faut vulgariser la loi, il faut recycler les gens. Monsieur Pierrot, même si on peut un matin là se réveiller, on ramasse quelqu'un sur la route, et puis on peut le placer à la frontière sur ce qui peut entrer au pays, ce qui peut sortir du pays, sans que les personnes soient nécessairement être. Je doute un peu fort. On est la loi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour beaucoup, l'alternance à la tête du pays a eu des faits. Pendant 18 ans du président sortant, le pays est noyé dans une sorte d'impunité avec toutes les institutions. C'est comme ça que beaucoup de gens ont encore en cette réalité-là, impunité, corruption. Comment voulez-vous que vous puissiez à telle frontière pour veiller qu'on ne vole pas ce qui nous appartient?
Alors là, ça devient compliqué, Jonas, de vous suivre. Vous avez dit, le problème, c'est que les gens doivent évoluer dans leur façon de penser. Les gens ne doivent plus continuer à croire, à se comporter comme si nous sommes dans le régime de l'impunité. Les gens doivent comprendre que les choses doivent changer et que aussi, cette question de lutte contre l'impunité, elle doit être assez abordée d'une manière réelle. Mais dommage, Jonas, qu'on ne pourra pas aller plus loin. On a perdu la ligne entre le studio et Kananga. À Lubumbashi, Jérémy est avec nous en direct. Bonjour, Jérémy.
Bonjour monsieur Pierrot, en tout cas merci pour la pertinence de ce sujet ô combien important. Avant d'entrer dans ce sujet, moi je voudrais juste en interpeller donc ça veut dire aux députés qui sont nos élus et qui doivent bien sûr ceux-là qui sont en train de façonner des lois et les mettre en pratique. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans notre pays, ça étonnerait que ceux qui sont censés, qui sont des législateurs, ont du mal à faire assister à l'applicabilité de cette loi pour laquelle ils ont voté. Moi, je pense que la législature congolaise doit être interpellée dans ce sujet. Et également, lorsqu'il y a un problème comme celui-ci, une situation très grave, gravissime même, qui échappe au peuple congolais, qui devait profiter au peuple congolais, mais de telles personnes qui en profitent, bien sûr, pour pouvoir faire autre chose. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, cette décision-là, qui faisait aller aux autres, on devait élargir cet espace, parce que c'était tout un chapelet de gens qui ont assisté de loin ou de près à cette trafic-là. Je pense que le ministère ayant en charge l'environnement doit aussi être interpellé, parce que c'est lui qui devrait normalement imposer une ligne de conduite pour que tous ces gens, tous ces chapelets de gens qui sont autour de lui puissent, n'est-ce pas, faire appliquer cette loi qui consiste à conserver et à protéger, bien évidemment, la nature. Alors, je pense que l'État congolais, via le président, le chef de l'État, est en train de se battre de gauche à droite pour pouvoir, n'est-ce pas, booster, n'est-ce pas, notre budget. Mais voilà, il y a un monsieur qui se lève. Et quand nous regardons souvent, ce sont souvent les grosses légumes qui sont frappées. Et dernièrement, ici, on a interdit les problèmes de trafic de bois rouge ici à Lubumbashi. On a vu que ce ne sont pas des petits citoyens qui sont intéressés. C'est plus les grosses légumes, les gens qui se disent intouchables dans ce pays. Moi, je pense que notre État doit commencer à frapper à partir du sommet jusqu'au plus bas, parce que ce ne sont pas les petits citoyens qui sont intéressés par de telles choses. Moi, je pense également à ces deux entreprises, l'OCC et la DGDA, et on devait normalement frapper là-dessus. Voilà, ceux-là qui sont les dirigeants, parce que ce sont la DGDA.
Dommage qu'on a perdu. Non, il est encore là, oui. Oui, Jérémy, je suis allé par là parce que tout à l'heure, là, on a eu une petite interruption. Et puis, vous pouvez terminer par là, oui.
Et alors, c'est ce que je disais, monsieur Pierrot. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il revient à notre gouvernement. Alors, de s'atteler là-dessus, prendre des décisions, il doit des décisions vraiment adéquates. Également, la justice doit être dedans, question de mettre, d'appliquer, de mettre sur pied la traçabilité. Nous devons voir clair, sinon c'est inconcevable. Et
Voilà, merci beaucoup, Jérémy. Vous l'avez dit, abattre autant d'éléphants pour avoir 20 points d'ivoire ainsi que autant de pangolins, ça veut dire que ceux qui, les agents du ministère de l'Environnement, les agents du ministère des Conservations de la Nature, devaient aussi à leur niveau se rendre compte qu'il y a quand même une vaste opération de braconnage qui se tient, quand bien même ça peut se tenir la nuit, on ne sait pas par quel mécanisme tous ces animaux sont abattus. Cela veut dire qu'il y a quand même des gens qui peuvent se rendre compte à un certain moment qu'il y a une opération de braconnage qui a conduit à ça. Et ça, c'est le rôle des différents services qui sont impliqués et qui, dans la gestion de cette question. Vous avez suivi notre ami Justin de Fungourou me disait tout à l'heure, cela veut dire que dans les enquêtes, on doit savoir avoir 20 tonnes de pointes d'ivoire ou de cailles de pangolins. On doit remonter quand même à un certain moment qu'on se dise, c'est depuis telle période qu'on a commencé à abattre ces animaux. C'est-à-dire qu'il y a un travail vraiment fouillé qui doit être fait. Et c'est ça même votre souci. Alors, on reste à Lubumbashi pour terminer ce magazine avec vous, Jules. Bonjour, Jules.
Bonjour, Pierrot Lamégier. Bonjour à tous les peuples congolais.
On vous écoute.
En tout cas, c'est encore une fois, c'est pitoyable. En tout cas, est-ce que dans ce pays ici, il y a un système où il y a un encouragement des dénonciateurs? Ça, c'est la question que je me pose. Et je me rappelle à l'époque des musées, et il y a des personnes qui rappellent tout le monde ici à Lubumbashi que les gens sont en train de pleurer. Mouzé Laura Désiré Kabila, il nous a créé le Tchembe Tchembe. Si y a un ça ne va pas, vous pouvez aller signaler et on vous encourage. Et à l'époque de Moïse Katumbi, quand il était gouverneur, si vous avez quelque chose qui ne va pas, vous allez au gouvernorat, vous signalez, on vous paie, on vous encourage. Mais aujourd'hui, moi je suis étonné. Quand on était parti voter, c'était pour qu'il y ait un changement. Hein? En tout cas, aujourd'hui encore, on commence à répéter ces mêmes bêtises, M. Pierrot et la Mésie. En tout cas, regardez, allez en Égypte. L'Égypte aujourd'hui a une armée forte, je crois la première armée en Afrique, c'est par rapport au tourisme. Il y a les touristes qui viennent en Égypte chaque jour, qui remplissent les hôtels. Mais pourquoi ici chez nous, nous avons plusieurs espèces et il y a d'autres espèces qui ne se trouvent pas nulle part ailleurs. Mais nous les avons ici à RDC. On pouvait encaisser. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurnicher par rapport au budget. Les budgets minimes, ainsi de suite. C'est par là qu'on pouvait commencer.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses. Mais oui, votre souci, Jules, c'est de voir, c'est de pouvoir encourager la dénonciation et que si c'était possible que ceux qui dénoncent puissent être encouragés. Mais vous avez évoqué quand même ce qui doit être fait sur terrain parce qu'on a parlé de ça. Rappelons que vous l'avez suivi sur les antennes de Radio Capi, qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts aujourd'hui avec la sécurisation, avec qu'on est arrivé quand même à une augmentation de population, de la population des gorilles. Vous avez suivi dans les parcs de Virunga, on est passé à plus de 5,7%. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits dans la sécurisation de ces biens. Mais le reste du travail, c'est au niveau aussi du pouvoir public, la volonté réelle de changement. Merci beaucoup. Hein. Vous avez été nombreux à commenter à ces sujets. On poursuit sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Et puis merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde, J.R. Lungembo était à la réalisation de ce magazine qui est sur www.radiocapi.net. Mais nous rappelons que l'émission de ce vendredi est rediffusée le samedi à 11h03, heure de Kinshasa. Merci, au revoir.